Europe 1.
(rire) 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, quelle belle idée vous avez d'écouter Europe 1, car chaque après-midi, on se retrouve pour 2 heures d'histoire sans se la raconter. Une émission qu'on a voulu instructive, bien sûr, mais rieuse également.
Une dimension rieuse de l'émission qui doit beaucoup au dérapage de moins en moins contrôlé de Stéphane en cette fin de saison.
Je me suis fait un petit japonais hier. Enfin, je veux dire, un restaurant.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous et amitié à votre jeune ami Nippon.
Arrêtez, c'était de l'humour, Mathieu.
C'est vous qui dérapez, je ne suis pour rien.
C'était un restaurant japonais.
Bien sûr, oui, on l'avait tous compris ça.
Personne ne m'a imaginé.
Mais vous l'avez imaginé,
mais non,
évidemment.
Évidemment.
En vous excusant.
Voilà, c'est potage, j'ai tellement envie de faire rire, vous savez.
Vous êtes tellement potage, Stéphane.
Parce que plus, au fil de ces émissions, on fait moins en moins d'histoires et de plus en plus d'humour. C'est votre influence.
Ça dérape. Excusez-moi, Stéphane. Reprenons-nous.
Aujourd'hui, ce n'est pas d'humour, on va parler d'amour. On réunit des dames dont les amoureux ont pris toute la couverture, et pas qu'au lit, si vous voyez ce que je veux dire. À commencer par celle qui passait sa vie aux côtés du chimiste Antoine Lavoisier. Son épouse Marianne Lavoisier, qui l'a assisté dans ses travaux, pour lesquels lui seul fut honoré, vous verrez. Puis je vous raconte une photojournaliste au destin éclair qui a montré comme personne la guerre d'Espagne à travers son objectif. Son nom, Gerda Taro. Un nom, hélas, toujours associé à celui avec qui elle a partagé la vie, un certain Robert Capa. Mmh. Au point que ses photos à elle aient été créditées à son nom à lui.
Et quant à moi, Stéphane, je vous raconterai la folle histoire de Walter et Margaret Keane, l'histoire d'un petit mensonge qui devient très gros, car au tout début des années 60, afin de les vendre plus facilement, Walter fait croire aux acheteurs qu'il est l'auteur de ces drôles de tableaux représentant des enfants avec de grands yeux. En fait, c'est sa femme qui peint. Le problème, c'est qu'au cours des années 70, les peintures de Walter commencent à se vendre des petites fortunes. Vous imaginez l'ambiance chez les Keane.
Tout va bien.
C'était un peu le bordel chez les Keane. Ça s'est très mal fini. Sans vous déplorer le sujet.
Bon, c'est un peu plus sérieux ici, c'est moins le bordel, comme vous dites. Avec nous chaque jour, eh bien, des chroniqueurs qui n'ont jamais volé le travail de leur conjoint. Celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Eh bien, les amoureux dont je vais vous parler aujourd'hui n'ont pas tiré la couverture à eux, mais tout au contraire, par amour, ils ont donné couverture, gîte et couvert aux malades. Ils vivaient au 15e siècle, ils s'appelaient Guigonne de Salins, drôle de prénom, reconnaissez-le, et Nicolas Rollin.
Bah oui, c'est les hospices de Beaune.
Exactement, ils sont les fondateurs des hospices de Beaune, mais qui sont le résultat d'une belle histoire d'amour.
Ah, c'est bien d'en parler. Et puis avec... Et puis avec David Kessel-Lopez, on remonte aux origines là, d'un instrument de musique que vous aimez.
Tout à fait. Je ne sais pas si je l'aime particulièrement, mais en tout cas, il existe. Et ça s'appelle le ukulélé.
Et vous le pratiquez?
Alors, j'en ai acheté un spécialement pour la chronique.
Il nous casse les oreilles avec son ukulélé depuis ce matin.
Il s'est joué ou pas?
Bah, vous allez voir.
Le problème, c'est que j'ai acheté un ukulélé de très bon marché qui ne peut pas être accordé, en fait.
Ah oui,
donc, en fait, il sonne faux, quoi qu'il arrive.
C'est en tout cas votre excuse pour nous proposer votre prestation musicale tout à l'heure. Et Olivier Pouls est avec nous, lui aussi. Il a un lien particulier aux hospices de Beaune, hein. Il les connaît bien.
Vous auriez pu apporter quelques bouteilles, d'ailleurs. Ça aurait été sympa.
Non, moi, je suis côté malade, j'aurais pu vous apporter de l'aspirine, si vous voulez.
Ça l'intéresse moins, l'aspirine. Alors, Olivier Pouls.
Alors, moi, je vais vous parler de tout à fait autre chose. Rien à voir avec les hospices de Beaune. Moi, je vais vous replonger dans une préparation qui a fait le bonheur de la cuisine romaine, le garum, dont quelques ersatz ou quelques descendants sont encore présents aujourd'hui dans nos cuisines. Oui.
Mais pourquoi ça a disparu si c'était bon?
C'était pas forcément bon. C'est bien ça le problème.
Je
vous expliquerai comment c'était fait.
C'est un genre de gnocchi, non?
Le gnocchi est aujourd'hui le descendant
c'est
plus proche.
C'est du poisson pourri.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Ah, effectivement, on comprend que ça ait disparu. Et puis nous jouons, évidemment, à Bern to be alive. Clémentine défiera une fois de plus Stéphane Bern, peut-être qui sait avec succès.
Oulala, c'était pas brillant, c'est tant.
La dernière édition était peut-être la pire de l'histoire de notre émission, avec 0-0 et en finale, aucune bonne réponse plus. Deux perdants, c'est pas vrai qu'il y avait deux perdants dans le quiz, c'était assez hallucinant.
On est au bout du rouleau.
Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Pour lui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Oh, Michou!
Non, Stéphane, bien avant Michou, et dans un laboratoire plus qu'un cabaret, c'est ce qu'a affirmé Lavoisier, le père de la chimie moderne. Mais un Lavoisier peut en cacher une autre, restée dans l'ombre. Stéphane Bern met en lumière celle dont le mari a pris toute la couverture, Marianne Lavoisier.
Vêtue d'un bel habit bourgeois, costume noir et chemise blanche à dentelle, Antoine Lavoisier est assis à sa table de travail. Devant lui sont posés des instruments de chimie, baromètre, gazomètre, cuve à eau. Au sol, un ballon de verre à robinet d'arrêt. La plume qu'il tient dans la main droite semble marquer une pause. Le père de la chimie moderne s'est arrêté d'écrire pour regarder son épouse, Marianne, qui a le regard tourné vers nous. Dans sa longue robe de mousseline blanche et sous son imposante perruque, c'est elle qui trône debout, en plein centre de la toile. Logique, me direz-vous. Car oui, c'est elle qui a commandé cette œuvre monumentale de 2,60 m de large sur près de 2 mètres de haut au peintre Jacques-Louis David. L'artiste néoclassique, portraitiste de la haute société du XVIIIe siècle, se livre ici à un éloge de la conjugalité de la science, montrant Marianne Lavoisier prendre appui sur l'épaule de son mari. Les rôles sont inversés car dans la réalité, c'est elle qui l'a épaulé toute sa vie. L'esprit n'a pas de sexe, les femmes sont aussi nobles, aussi parfaites et aussi capables que les hommes, écrivait le philosophe Poulain de la Barre au XVIIe siècle. Voilà qui est bien dit. Au siècle suivant, Marianne Lavoisier vient en témoigner. Née en 1758, elle est la fille de Jacques Pauls, un avocat au Parlement devenu fermier général. Non, ne l'imaginez pas avec ses bottes et son chapeau de paille en train de travailler la terre. Les fermiers généraux sont des collecteurs d'impôts. Marianne reçoit l'éducation classique d'une jeune fille de la haute bourgeoisie. Au couvent de la Visitation de Montbrison, elle se montre tout particulièrement intéressée par la science et le dessin. Son destin aurait pu chavirer pour cause de mariage désastreux. Alors que sa fille vient d'avoir 13 ans, Jacques Pauls est dans l'embarras. Son oncle, le tout-puissant contrôleur général des finances, Terray, veut marier Marianne à l'un de ses amis, un homme bien plus âgé qu'elle, il a 50 ans. Et ce n'est en plus pas un très bon parti. Difficile pourtant de dire non à son oncle, mais impossible de laisser sa fille dans les bras de cet ogre. Et puis, il ne veut pas compromettre sa fortune. Jacques Pauls écrit donc à Terray pour lui signaler que non, ce mariage ne se fera pas. Mais l'oncle est insistant. Alors pour être sûr qu'il laisse sa fille tranquille, Pauls décide de la marier. Qui sera l'heureux élu? Un jeune fermier général de 28 ans qui répond au nom d'Antoine Lavoisier. Pour les imaginer, voici comment leurs contemporains ont dressé leur portrait. Lavoisier était grand, il avait les cheveux châtains et les yeux gris, la bouche petite, un aimable sourire, un regard d'une grande douceur. De son côté, Mademoiselle Pauls était de taille moyenne, elle avait les yeux bleus très vifs, les cheveux bruns qui, dans ses portraits, sont recouverts selon la mode du temps d'une perruque blonde fort disgracieuse, la bouche petite, le teint d'une grande fraîcheur. Ces deux bouches petites se disent oui à Paris le 16 décembre 1771. Le couple s'établit un temps rue Neuve des Bons Enfants. C'est dans le premier arrondissement de la capitale, avant de poser bagage à l'Arsenal lorsque Lavoisier est nommé régisseur des poudres. Sous les combles de son logement de fonction, Antoine Lavoisier installe un laboratoire. Sa passion, c'est la chimie. C'est une passion qu'il transmet vite à sa femme. Marianne, impressionnée par le génie de son mari, fait tout pour pouvoir le suivre dans ses travaux. Elle demande à son frère de lui donner des leçons de latin. Elle apprend l'anglais pour traduire des mémoires de chimie à son époux. Elle tient les registres, note le résultat de ses expériences. Bref, si vous cherchez les Lavoisier, ils sont dans leur laboratoire chaque matin et chaque soir. En octobre 1787, l'agronome britannique Arthur Young rend visite au couple de laborantins. Il écrit au sujet de Marianne. Madame Lavoisier, une personne pleine d'animation, de sens et de savoir, nous avait préparé un déjeuner anglais au thé et au café. Mais la meilleure partie de son repas, c'était sans contredit sa conversation. Soit sur l'essai sur l'aphtologistique.
C'est quoi cette science, sur... Stéphane?
Soit sur l'essai sur le phlogistique de Kirvan, qu'elle est en train de traduire, soit sur d'autres sujets qu'une femme de sens travaillant dans le laboratoire de son mari sait si bien rendre intéressant. Oh, quel compliment! Vous imaginez? D'autant plus pour l'époque, mes aïeux. Marianne Lavoisier n'est pas jugée en sa qualité de maîtresse de maison ou d'épouse dévouée, mais bien en tant que véritable collaboratrice de son mari. Bon, en revanche, il faudra se contenter des éloges de l'entourage, car nous sommes au XVIIIe siècle tout de même. Et c'est bien Antoine Lavoisier qui recueille tous les honneurs. Il est membre de l'Académie royale des sciences, de la Société royale de médecine, de la Société d'agriculture de Paris et d'Orléans, de la Royal Society de Londres, et je ne vais pas tous les citer car nous n'avons pas suffisamment de temps. Heureusement que Jacques-Louis David a rééquilibré la balance en faisant figurer son épouse au centre de son portrait. L'artiste a d'ailleurs donné des cours de peinture à Marianne Lavoisier. Ainsi, elle a pu réaliser les 13 planches du traité élémentaire de chimie, ouvrage considéré comme le tout premier manuel de chimie. Si tout semble sourire au couple Lavoisier, ne vous fiez pas aux apparences. Nous sommes en 1789 et les choses sont sur le point de changer. Nous sommes le 25 septembre 1789 et Marianne Lavoisier reçoit à l'Arsenal le gouverneur Morris, ministre plénipotentiaire des États-Unis en France. Elle l'a rencontré à l'opéra et lui a proposé un thé en attendant le retour de son mari appelé à l'hôtel de ville. Au cours de la discussion, elle confie à son invité qu'elle n'a pas eu d'enfant. L'homme ose évoquer sa paresse. Sous ses yeux, Marianne Lavoisier se met à pleurer et répond qu'elle n'a tout simplement pas eu de chance. Et la chance semble avoir définitivement abandonné. Certes, son mari a révolutionné les sciences, mais en tant qu'ancien fermier général, il représente les intérêts financiers de la monarchie. En pleine révolution, vous imaginez que ce n'est pas très bien vu. Résultat, le chimiste est arrêté sous la terreur. Antoine Lavoisier est guillotiné le 8 mai 1794. Dans le même temps, Marianne Lavoisier voit ainsi périr son père, son mari et ses amis les plus chers. Dépouillée de sa fortune, seule, sans parents, elle pleure ses morts, mais continue à faire preuve de courage. Après 2 mois passés en prison, elle parvient à être libérée puis obtient enfin, en avril 1796, la restitution des meubles, des papiers, des livres, des objets de laboratoire qui avaient été confisqués. Marianne épouse en seconde noces un certain Benjamin Thompson, comte de Rumford. Un homme attaché au progrès de la science, un bienfaiteur de l'humanité. L'inventeur d'une casserole à double fond, d'une cuisinière et d'une cafetière verseuse à filtre. Il se marie en 1805, mais la relation prend l'eau. Un de ses amis raconte par la suite que, depuis cette époque et pendant 27 ans, aucun événement, on pourrait dire aucun incident, ne dérangea plus Madame de Rumford dans sa noble et agréable façon de vivre. Elle n'appartint plus qu'à ses amis et à la société qu'elle recevait avec un mélange assez singulier de rudesse et de politesse, toujours de très bonne compagnie et d'une grande intelligence du monde, même dans ses brusqueries de langage et ses fantasmes d'autorité. Marianne organise ensuite la publication des derniers mémoires de son cher Antoine Lavoisier et poursuit l'œuvre entreprise par son mari jusqu'à sa mort en 1836, à l'âge de 78 ans. Voilà le portrait d'une femme brillante du siècle des Lumières, restée injustement dans l'ombre de son mari.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et Stéphane, pour continuer à parler de Marianne Lavoisier, nous sommes avec l'historien des sciences Stéphane Blond. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane Blond, vous êtes maître de conférence en histoire moderne des sciences à l'université d'Évry. Vous avez analysé la toile de Jacques-Louis David que j'ai décrite dans mon récit et vous expliquez que ce tableau a coûté près de 7000 livres, une somme considérable pour l'époque. Pourquoi une telle commande? Est-ce que Marianne voulait valoriser son couple ou même se remettre au centre de la toile?
Alors bonjour Stéphane, effectivement 7000 livres c'est une somme à cette période, songez que ça correspond approximativement au salaire annuel de 20 ouvriers agricoles. Donc c'est une commande de prestige et Marianne ici incarne surtout une femme mécène. Elle répond finalement au modèle de son milieu social et depuis une dizaine d'années elle côtoie Jacques-Louis David qui est un peintre à la mode à Paris, un portraitiste renommé. On connaît ses œuvres avec une précision qu'on appellerait aujourd'hui quasiment photographique. Et donc Marianne ayant été son élève, ils se connaissent très bien et grâce à cette commande, elle met surtout en exergue la réussite de son couple et elle place sa fortune au service des arts.
Dans le tableau, Marianne adopte une posture, on va dire, assez contemplative, alors qu'Antoine Lavoisier s'affaire à sa table avec ses instruments. Jacques-Louis David rend justice à sa commanditaire, d'après vous, ou pas tant que ça, finalement?
J'allais dire oui et non, et par différents aspects. Alors effectivement, Marianne occupe une position centrale sur la toile et elle capte le regard du spectateur grâce au jeu de lumière, mais le peintre a eu tendance à atténuer cet aspect. il y a quelques années, on a restauré ce tableau et l'enquête a révélé que le peintre a réalisé d'abord une première version avec un décor beaucoup plus luxueux sans le matériel de chimie. En fait, Madame Lavoisier arborait un gigantesque chapeau à ruban et à plumes typique de la fin du XVIIIe siècle qui la mettait encore plus en valeur sur la toile. Et finalement, le peintre a gommé cet intérieur très ostentatoire, probablement à cause du contexte très tendu des mois qui précèdent la Révolution, et l'ajout des instruments de chimie, finalement, revient indirectement à accorder plus d'importance à son époux.
Pourtant, Antoine Lavoisier regarde sa femme et non le spectateur sur la toile. C'est pas anodin, c'est parce qu'il lui doit beaucoup, ou c'est un hasard?
Ah oui, effectivement, il lui lance un regard attentif, admiratif, ça traduit l'amour qu'il lui voue. Il y a une touchante sensibilité dans cette mise en scène, et David est assez rare sur ce registre. Alors, dans la première version de la toile, Antoine Lavoisier tendait à son épouse une lettre, ce qui démontre qu'elle est à la fois une confidente, mais qu'elle lui sert aussi d'intermédiaire dans son travail. Finalement, ils partagent les mêmes passions, et c'est ça que le peintre met en exergue.
À l'époque, les femmes de la haute bourgeoisie tenaient salon. Mais Marianne faisait plus que cela, je l'ai raconté. Vous expliquez dans votre analyse qu'elle participe aux expérimentations, qu'elle prend des notes, qu'elle réalise des croquis, qu'elle fait des dessins. Au fond, c'est très moderne, ça, une femme qui collabore avec son mari.
Alors oui, et ça n'est pas courant à cette période. Alors c'est aussi, vous l'avez souligné, la multiplicité des modes d'intervention qui surprend. Marianne ne mène pas directement les expériences, mais elle y participe à chaque instant. En amont, lors de la phase préparatoire, pendant les opérations, elle tient registre, et après l'expérience, elle participe à la mise en forme et à la diffusion des résultats. Bref, c'est une action polyvalente. Elle traduit des ouvrages et elle ajoute des notes critiques à ces traductions. Elle dessine, vous l'avez dit, les scènes expérimentales et les instruments avec une finesse extrême. Alors vos auditeurs d'ailleurs peuvent découvrir certains de ses dessins en consultant le traité élémentaire de son mari qui est disponible gratuitement sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France. Enfin, pour résumer, elle réalise, on l'a compris, des tâches essentielles pour la diffusion du savoir scientifique et ça permet à son mari de se concentrer totalement sur le volet expérimental.
Vous expliquez dans votre article sur le tableau que l'historienne japonaise Keiko Kawashima considère qu'avec Madame du Châtelet pour les mathématiques, Marianne Lavoisier illustre le lien entre la science et le genre au siècle des Lumières. Marianne Lavoisier, elle a permis de faire comprendre que les sciences n'étaient pas réservées qu'aux hommes.
Oui, tout à fait, Mathieu. En fait, Marianne, elle témoigne du rôle nouveau que tiennent les femmes dans la vie scientifique et culturelle. Un siècle plus tôt, dans Les Femmes Savantes, Molière tournait en dérision le principe d'une éducation savante féminine. C'est trop moderne à cette époque. En réalité, les temps ont changé. Et au XVIIIe siècle, les cercles de pensée s'élargissent et les femmes y participent de plus en plus. Toutefois, ça reste un phénomène exceptionnel et fortement soumis à la norme des rapports hommes-femmes au cours de l'Ancien Régime.
Marianne est reconnue par ses pairs, mais les éloges vont surtout à son mari. Pourquoi, d'après vous, elle reste malgré tout une figure de l'ombre ?
Encore une fois, on peut faire référence au modèle social de l'époque. Dans le domaine des sciences, la lumière se focalise sur ceux qui mènent les expériences, et en réalité rarement sur leurs collaborateurs. D'ailleurs, le constat est valable aussi bien pour des femmes que pour des hommes qui collaborent à ces expériences. En fait, l'homme de science de l'époque, c'est celui qui tente, qui teste, qui expérimentent, et ces démarches-là restent fermées aux femmes, comme l'Académie des sciences d'ailleurs. Et les sources sont également muettes ou très partielles sur la place des femmes dans cet univers très très masculin. Donc pour Madame Lavoisier, c'est difficile de se faire un prénom. Et d'ailleurs, c'est vrai pour les sciences comme pour les arts à cette période-là.
Est-ce qu'on sait comment Antoine Lavoisier s'intéresse à la chimie ?
Oui, alors il est issu d'un milieu bourgeois avec une éducation qui s'ouvre aux nouvelles disciplines. Il lit des livres et des revues savantes, c'est un secteur éditorial qui est en pleine croissance à cette période, et il suit également des cours de chimie d'un académicien. Après, il n'y a qu'un pas, la chimie opère. En fait, Lavoisier, il finance, il participe à des expériences qui lui permettent d'ailleurs d'intégrer très vite l'Académie royale des sciences conscience alors qu'il n'a que 25 ans.
Le 18e siècle, siècle des Lumières, est une révolution de la pensée, des idées. Mais est-ce que c'est aussi une révolution au niveau scientifique?
Ah oui, tout à fait. Les sciences font partie intégrante du mouvement des Lumières. D'ailleurs, la France, elle a pris un peu de retard par rapport à l'Angleterre où les travaux de Newton font autorité déjà depuis plusieurs décennies. Alors la monarchie française soutient activement la recherche scientifique et les nobles et les bourgeois comme les Lavoisier en fait suivent cet effet de mode. Alors les instruments se perfectionnent et vous l'avez souligné sur le tableau de David, il y a des objets utiles aux expériences qui coûtent très cher comme le fameux gazomètre régulièrement utilisé par Antoine Lavoisier.
Lavoisier, il est considéré, on l'a dit, comme le père de la chimie moderne. On connaît tous sa formule célèbre qu'on a apprise à l'école. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais on imagine que c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il a découvert de fondamental?
Alors effectivement, on le décrit comme le père de la chimie moderne. Et finalement, cette formule résume son apport majeur. Et c'est d'ailleurs par la portée des découvertes qu'on reconnaît ici le génie. En fait, il s'inscrit en contradiction avec la théorie à la mode de l'époque qui s'appelle le phlogistique. Le phlogistique avance l'idée que les matériaux portent en eux une matière qui peut amener la combustion. Et Lavoisier démontre au contraire que c'est la chimie des gaz qui est à l'œuvre. C'est avec l'oxygène qu'on alimente le feu. On a tous vécu ces expériences-là au collège ou au lycée. Donc en brûlant, les matériaux absorbent de l'oxygène, dégagent du gaz carbonique, donc il démontre que rien n'est perdu. Lavoisier, il est aussi à l'origine d'une première nomenclature des éléments avec les propriétés chimiques de ces éléments, ce qui débouche plus tard sur le fameux tableau périodique des éléments.
Ah, le fameux.
Voilà, qu'on a tous subi dans les salles de cours. Et comme vous le savez, Lavoisier, c'est aussi un financier. Et petite anecdote, il est chargé aussi de vendre et de percevoir les taxes sur les poudres et les salpêtres. Et vous connaissez sûrement la formule, il n'a pas inventé la poudre. Alors en réalité, lui, grâce à son analyse des éléments, il démontre que la composition de la poudre peut être modifiée, améliorée, afin d'accroître la puissance de la poudre. Donc en ce sens, il n'a pas inventé la poudre à canon, mais il l'a largement perfectionnée.
Les travaux de Lavoisier auraient pu tomber dans l'oubli, mais ils ont continué à influencer la chimie jusqu'à aujourd'hui. Au fond, c'est grâce à Marianne qui a permis de diffuser, de pérenniser les découvertes de son mari après que la révolution lui raccourcit la tête.
Et oui, effectivement, après la mort de son mari, Marianne continue inlassablement, jusqu'à sa mort, de diffuser les travaux de son époux. Elle rassemble ses notes et elle publie par exemple en 1805 plusieurs volumes qui contiennent les mémoires de chimie qu'Antoine Lavoisier a présenté à l'Académie des sciences. Et certains de ces mémoires sont restés inédits, ce qui contribue précisément à perpétuer l'œuvre de son époux et à continuer de faire avancer la science.
Stéphane l'a raconté, elle épouse en seconde noce un autre homme de science. Finalement, c'était une femme de scientifique ou une femme de science?
Je serais tenté de dire à nouveau les deux, finalement. On sait qu'elle prend une part ainsi active à la diffusion des sciences, mais elle participe aussi à la vie mondaine. Elle tient salon, Stéphane l'a dit, et donc elle est en contact fréquemment avec les savants, de Benjamin Franklin à Dupont de Nemours, avec lequel on lui prête aussi une aventure. Bref, cet univers savant lui est familier. Et donc en 1805, elle se remarie avec un physicien américain, qui est aussi un habitué de son salon. Finalement, c'est la preuve que la science et l'amour peuvent aussi créer une forme d'alchimie.
Merci beaucoup Stéphane Blond d'être venu avec nous sur cette femme de science qui est restée dans l'ombre de son mari, mais qui a permis de diffuser son héritage jusqu'à nous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous, à très bientôt.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Tous les jours des 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires en poussant chaque jour le bouchon un peu plus loin. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, aujourd'hui Clémentine a un bouchon de vin qui permet de la charité, surtout puisqu'il en est question avec Guigonne de Salins et Nicolas Rollin, les fondateurs des Hospices de Beaune, puisque vous savez que la vente des vins permet de soutenir les actions caritatives des Hospices de Beaune.
Bien sûr, Et ce, depuis le 15e siècle. C'est une histoire extraordinaire. Alors, évidemment, tout le monde a en tête, parce que vu les multi-rediffusions de la Grande Vadrouille, vous voyez cette grande salle qu'on appelle la salle des pauvres, avec un O et un accent circonflexe. Il y a cette scène inoubliable où les deux héros de Funès et Bourvil sont cachés par les sœurs hospitalières dans ces petits lits à baldaquins avec des rideaux rouges. Et alors, on leur prend la température. Bon, tout, je pense qu'il n'y a pas un Français qui ne connaît pas cette scène. Et en effet, à l'origine de la fondation des Hospices de Beaune, il y a cette belle histoire d'amour entre Nicolas Rollin, qui est une grande figure de la Bourgogne du XVe siècle. Il était chancelier du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, pendant 40 ans. Et sa toute jeune femme, Guigonne de Salin, qui est née à Beaune en 1403 et qui était dame d'honneur de la duchesse de Bourgogne. Alors attention, pas rien à voir avec le démon de midi, style Charles VII et Agnès Sorel ou Henri IV et Charlotte de Montmorency. Pas du tout. C'est pas un monsieur qui a un peu son démon de midi et qui se chope une petite, beaucoup plus jeune que lui. Pas du tout. Nicolas Rollin a été veuf par deux fois. Et il épouse Guigonne en troisième noce le 20 décembre 1423. Il a 47 ans et elle en a 20. Et dans ces années-là, la guerre de Cent Ans n'est pas encore terminée. Beaune, comme bien des villes de Bourgogne, souffre de misère, de famine. Les écorcheurs pillent et ruinent les campagnes. Et les Beaunois, dans leur grande majorité, sont déclarés indigents. Et c'est dans ce contexte que Nicolas et Guigonne ont l'idée de créer un hôpital, l'Hôtel Dieu, fondé le 4 août 1443. Dans le prolongement de cet Hôtel-Dieu, Rollin crée un nouvel ordre religieux, les Sœurs Hospitalières de Beaune. Et c'est le 1er janvier 1452, il y a un anniversaire autour de cela, que l'hôpital accueille son premier patient. Et de ce moment-là, vieillards, infirmes, orphelins, malades, parturientes, indigents vont fréquenter l'institution du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. C'est quand même quelque chose admirable. Ça n'a jamais cessé d'exister. Alors, pourquoi parle-t-on des Hospices de Beaune? Parce que c'est le premier établissement qui a été créé, mais il en a suscité d'autres à Pommard, à Nolay et à Meursault pour constituer une communauté que l'usage a dès lors baptisée les Hospices de Beaune au pluriel. Il est très connu, cet hospice, vous voyez, comment est son toit? Son toit au... Non? Vous n'avez pas ça? Oui. Vous n'êtes jamais arrêté à Beaune?
Je me suis arrêté plus d'une fois à Beaune. Les toiles vernissées,
c'est un toit avec des tuiles multicolores.
Les tuiles.
Je pense que j'ai passé trop de temps à la dégustation et que
j'en ai peur, mon ami.
C'est moi qui ai fini sur le toit.
La cave, vous voulez dire, oui, sur le toit.
Un monument unique.
C'est magnifique. Et parce qu'en fait, au cours de ses séjours en Flandre, dont le duc de Bourgogne était également suzerain, Nicolas Rollin a été séduit par les toits polychromes qui étaient en Flandre déjà empruntés à l'Europe centrale. Il s'en est inspiré pour concevoir son hôpital et petit à petit, ce style s'est propagé en Bourgogne au point d'être considéré comme typique et traditionnel de la Bourgogne. Mais ça n'a rien à voir avec la Bourgogne, c'est la flamand. Flandre et c'est flamand. Et avant d'être flamand, c'est l'Europe de l'Est. Ils vont aussi, Guigonne et Nicolas, introduire l'art à l'hôpital dès sa fondation. Il prévoit une dotation. Il faut que ce soit beau. C'est pas parce qu'on est malade, c'est pas parce que c'est pour les pauvres. Donc, une dotation en tapisserie, sculpture. Et on a un inventaire détaillé de ce qu'il y avait dans les Hospices de Beaune en 1501, c'est-à-dire près de 5000 objets. Et la grande salle des pauvres, et ben aujourd'hui, on peut la voir à peu près telle qu'elle était. Non pas dans son jus, parce que le mobilier date du 19e, naturellement. Mais ce qui est très touchant, c'est que si vous regardez le carrelage de la grande salle des pauvres, par endroits, sur certains carreaux, on voit la devise de Nicolas Rollin qui était seul écrit SEU2LE, ça signifiait que Guigonne était la seule dame de ses pensées. Il y a aussi aux Hospices de Beaune, le fameux polyptyque de Rogier van den Veden, où Nicolas Rollin et Guigonne de Salin sont représentés tous les deux en prière. Il est mort, Nicolas Rollin, à 80 ans, et sa femme Guigonne a continué à s'occuper des Hospices de Beaune jusqu'à sa propre mort en 1470. Elle a d'ailleurs été ensevelie sous la chapelle. Et quand on arrive aux Hospices de Beaune, si on ne va pas directement à la cave pour picoler, on est accueilli par une statue de Nicolas Rollin et Guigonne de Salin, réalisée dans l'entre-deux-guerres par un certain Henri Bouchard. En tout cas, comme le disait Stéphane, aujourd'hui encore, les hospices civils de Beaune utilisent les fruits de l'activité touristique dégagée par l'Hôtel Dieu et par la vente des vins des hospices de Beaune pour améliorer la qualité des soins et de l'hébergement et entretenir le patrimoine. Moi, je sais pas s'il y a beaucoup d'œuvres équivalentes dans notre pays aux hospices de Beaune qui existent comme ça depuis
le temps. Il est connu dans le monde entier.
Hein. C'est un endroit merveilleux. S'y arrêter, puis lever le nez.
Voilà. Ouais, je vais y aller.
Pas simplement piquer du nez, mais lever le nez.
Le coude plus facilement que le nez.
Je vais réserver mon hôtel de ce pas pour ma halte. C'est une très bonne étape, Beaune.
Vous arrêterez chez Olivier.
Alors oui, Olivier, c'est un peu plus haut quand même.
Oui.
Hein, mais
vous arrêterez chez Olivier.
Oui, il ne faut pas s'arrêter chez Olivier si on veut être sobre à Beaune. Ce n'est pas une bonne option. Si vous voulez, il faut...
C'est une préparation. C'est la mise en bouche.
Attention, avec modération, je le rappelle bien toujours, Stéphane, c'est important.
Avec qui vous voulez.
Le quiz qui arrive est important, lui aussi. C'est l'occasion de vous racheter. Carrière, vous avez été au-delà de la nullité. A tout de suite pour le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Quand vient l'heure du quiz, Stéphane pourrait se laisser gagner par l'animosité. Il pourrait être tenté de dire du mal de Clémentine, mais il ne le fait jamais. Sauf quand je lui tends la perche. Dans la ville, il y a ceux qui ne parlent pas assez, et puis il y a Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ah oui, ça.
Stéphane, ne rebondissez pas sur ce que je dis. Jour à Bern to be alive. Il s'est trahi, Bern to be alive, notre célèbre quiz. On va essayer de redorer un peu votre blason aujourd'hui. Question numéro 1, Stéphane. Je rappelle qu'hier, vous n'avez pas mis un point. Pas un seul.
Mais
Clémentine, non. Je n'ai jamais vraiment observé la forme de votre crâne, Stéphane. Mais je devrais, serait-ce que pour savoir si chez les Incas, vous auriez été paysan, roi ou soldat. En effet, les fils de paysans Incas devenaient paysans. Du coup, on faisait en sorte que les bébés aient la forme de crâne de leur destin. C'est-à-dire, les bébés paysans devaient porter un moule en bois qui donnait au crâne une forme pointue. Pour les bébés rois, la forme de leur crâne devait devenir carré. Est-ce que ce que je raconte, c'est vrai ou faux? Une sorte d'appareil dentaire, mais pour le crâne. Discipliner la forme
et
du crâne.
Et en quoi le fait d'avoir... En quoi avoir un crâne pointu a aidé à être paysan?
Mais écoutez, je ne vous dis pas que ça avait une utilité biologique, je vous dis juste que c'était esthétique. Comme ça que dans l'esthétique inca, pour être paysan, il fallait un crâne pointu, les rois avaient le crâne carré, sinon ça faisait pas des bons rois. Pour vous, ça paraît abracadabrantesque.
Ça paraît fou, ça paraît idiot, mais moi je dirais que ça n'est pas, c'est faux.
Vous avez...
C'est vrai, Stéphane.
J'aime pas ces gens-là.
Vous êtes bien content que les conquistadors soient arrivés.
J'aime pas
pour
ces
les
gens-là
un
au
petit peu
pointu.
Et les initier au catholicisme.
Je trouve que c'est pas bien de vouloir déformer les crânes des gens.
Tenez, je croyais pas si bien dire. Pour les soldats, on mettait à leur fils un moule en bois pour qu'ils aient un crâne triangulaire. Normalement, ces moules en bois n'étaient pas plus douloureux que les appareils dentaires. Vous voyez, c'est un peu la même idée.
Oui,
question numéro 2, Clément. Attention. À la fin du 19e siècle, en Bretagne, les conserveries de sardines étaient parfois infestées de rats.
Ah, les conserveries de sardines.
Ça, c'est une question pour vous. On avait trouvé un moyen radical de lutter contre ce fléau. On cousait l'anus des rats. Vrai ou faux?
Qu'est-ce que cette histoire? Qu'est-ce que vous racontez, là?
Pour lutter contre les rats, dans les sardineries, on leur cousait l'anus.
C'est-à-dire, on allait demander au rat, viens ici, mon
monsieur
petit,
le rat,
et on va te coudre l'anus. Et donc, on prenait la peine de collecter tous les rats, ça ne les empêchait en aucun cas de manger des sardines.
Ça les empêchait ensuite de les évacuer, et donc ils finissaient par mourir. Aller choper les rats pour leur coudre l'anus, mieux vaut
plutôt,
mettre
plutôt que de les tuer tout de suite.
Mieux vaut, ouais. Non, vous répondez non parce que c'est trop gros.
C'est trop gros.
Et malheureusement, vous avez perdu. Cette histoire est invraisemblable. Le plus souvent, on allait leur coudre l'anus avec un crin de cheval. Il faut dire que ça allait très vite, hein, c'est tout petit, un anus de rat.
On attrapait les rats.
Ce dernier, incapable de déféquer, devenait fou de douleur et agressif. Il attaquait les autres rats qui partaient de la sardinerie. Donc, un rat, en fait. Il suffit de coudre l'anus d'un seul rat.
Oui, mais vous avez dit les rats.
Non, vous avez dit les rats.
Il fallait dire le rat. Vous n'avez pas dit un rat. J'ai dit dans le temps, les rats.
Donc oui, bah, c'était les rats. Un rat par sardinerie.
La question était très mal formulée et très imprécise.
Et alors, pourquoi on faisait ça? Parce que, donc, le rat attaquait les autres rats qui vidaient la sardinerie. Dans les autres magasins, on pouvait mettre des chats. Mais pas dans les sardineries.
Parce que ça mangeait les sardines.
D'où cette cruelle solution pour le rat?
Eh ben, vous avez des questions horribles aujourd'hui.
Oui,
entre
franchement...
les rats dont on coule l'anus et la tête des enfants qu'on rend pointue, eh ben, je trouve que...
Heureusement que c'est pas l'inverse. Oui, bon, bref. Alors, question numéro 3 pour vous, Stéphane. Épiménide fut un poète chamanique. Qui aurait vécu, on n'est même pas sûr que le mec existait, qui aurait vécu en 500 avant Jésus-Christ. Il est connu pour son paradoxe, le paradoxe d'Épiménide. On peut le résumer par cette phrase: la tolérance pour exister doit tout tolérer sauf l'intolérance. Vrai ou faux?
L'intolérance, c'est intolérable.
D'Épiménide.
Oui, c'est tout à fait juste.
C'est tout à fait juste, oui, vous le connaissez.
Je connais,
c'est
bien sûr.
Tous les poètes chamaniques qui ont vécu aux environs de 500 avant Jésus-Christ.
Qui ont vécu aux arbres et nous déjà.
Il a vécu en 500 avant Jésus-Christ. On ne sait même pas où. On ne sait même pas où il a vécu. On en est là.
Vous avez encore perdu.
Et Stéphane a encore perdu. C'est-à-dire que là, ça fait deux jours, et y a même le hasard ne joue plus en sa faveur. Voilà. Alors, c'est faux. Ce n'est pas ça du tout, Stéphane, le paradoxe d'Épiménide. Ça n'a rien à voir. Le paradoxe d'Épiménide, c'est un crétois dit que les crétois sont des menteurs.
Oui.
Or, s'il est crétois, c'est un menteur. D'ailleurs, c'est effectivement ce qu'il dit. Donc, il dit la vérité. Il ment tout en disant la vérité. C'est le paradoxe d'Épiménide. Et c'est fascinant. Question numéro 4, Clémentine. Alors Clémentine, attention, vous pouvez l'emporter.
Ouais.
Dans un album de Tintin...
Après l'anus des rats, là, tout est possible.
Tout est possible, cette dernière question. Dans un album de Tintin, il y a un hommage à Astérix. Et dans un album d'Astérix, il y a un hommage à Tintin. C'est vrai ou faux ce que je dis?
Ouais.
L'hommage à Tintin dans un Astérix, ça, j'arrive à l'imaginer, mais l'hommage à Astérix dans Tintin, ben, ça me paraît très curieux parce que Tintin ne fit jamais les pieds en France, il vient juste à Saint-Nazaire pour s'embarquer avant d'aller en Amérique latine dans le Temple du Soleil. Et il met deux fois les pieds en France, je crois que c'est Saint-Nazaire et La Rochelle en tout et pour tout. Donc pour faire un hommage à... Non, je réponds
Astérix
non.
Astérix n'est pas qu'en France. Répondez
faux. Ah, ça pourrait... Ou alors, quand il est en Égypte, il y aurait un... Non, je réponds faux. Je
réfléchissez mieux quand même. Donnez un petit peu réflexion quand même.
Non. De toute façon, je ne vous fais aucune confiance. Il est à zéro. Donc, si je suis à zéro, on est à égalité. Ouais. Et comme ça, on fait la cinquième. Donc, vous voulez que là, j'ai faux pour pouvoir être aussi nul que lui et qu'on fasse la cinquième question. J'insiste,
vous répondez
non,
faux.
Je réponds faux.
Vous répondez faux, c'est un mauvais calcul de votre part, car...
Vous avez gagné.
Certes, vous avez gagné, mais comme je vous retranche un point, car tout à l'heure, vous avez dit que mes questions n'étaient pas intéressantes, voilà, nous sommes à égalité. Nous sommes à égalité, et tout est bien qui finit bien.
Là, c'est de fin de saison, là, ça. On se vautre dans la supercherie.
Écoutez bien, Stéphane.
Allez-y, donnez la réponse.
Écoutez bien, il n'y a qu'un hommage à Tintin, c'est dans les albums d'Astérix. Dans Astérix Légionnaire, il y a un Romain qui a une tête qui rappelle Tintin, et puis dans Astérix en Belgique. Si vous avez lu Astérix en Belgique, vous en souvenez, les Dupont et Dupont sont carrément là, au détour d'une case.
Donc, c'était pas idiot ce que j'ai dit. Tintin vient trop peu en France pour pouvoir faire un hommage signalé à... Astérix et Obélix, qui eux, y vivent, même s'ils en sortent de temps en temps.
Stéphane, vous devriez être heureux car vous êtes repêché et nous allons en question 5. Partons pour le Yucatan.
Ah, oui. Ah non, mais là, j'en peux plus, moi, d'être.
Ah, le Yucatan, on y est, là.
Là, on est dans les Andes, là.
Oh non, Stéphane.
Là, on est la cordillère des Andes.
Oui, mais c'est notre musique pour l'Amérique latine.
Il y a aussi des gens avec les crânes pointus, là-bas.
Sud-est, vous allez voir. Sud-est du Mexique, je vous conseille vivement son site archéologique de Chichen Itza et sa fameuse pyramide du Kukulcan, érigée par les Mayas il y a plus de 1000 ans. Au XVIe siècle, les Espagnols ont imposé le catholicisme dans la région. Et d'après Stéphane, ils l'ont bien fait. Plus particulièrement, dans le village de Chicumac. Petit problème, les prêtres sont morts et personne n'est venu prendre la suite. Les Mayas ont donc transmis oralement notre religion au fil des années. Quand, en 1920, des explorateurs sont retombés sur ce village, pourquoi les messes étaient surprenantes? Trois possibilités. Le prêtre avait été remplacé par un singe. Seules les femmes pouvaient faire la messe. L'hostie pour la communion était remplacée par un coléoptère vivant.
Deux.
Trois.
Seules les femmes pouvaient faire la messe. Ou alors, à ma droite, on a
ça
un
hostie de la cantaride, hein,
qui serait un coléoptère vivant. Je vous donne à tous les deux la possibilité. Oh oui, Stéphane, connaissance des Mayas.
Ah zut,
le prêtre avait été remplacé par des singes. Une tradition qui avait perduré depuis le XVIe siècle. Le plus émouvant, c'est que les habitants de Chicumac chantaient des chants liturgiques en latin qui s'étaient transmis malgré tout de génération en génération.
Ils vénèrent le noir, alors ils boivent du coca toute la journée. Les églises... Non, c'est très étrange.
Culture étrange. Et heureusement que le catholicisme...
C'est un catholicisme mal digéré.
Enfin, c'est une superbe victoire de Stéphane qui décidément connaît le continent amérindien, mais comme tricheur,
il lui donne son point. L'anus des rats, non mais j'en peux plus.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue autour de cette question lancinante. Stéphane Bern fait-il partie de ces gens qui, dans le lit, tirent la couverture à eux? C'est insupportable, ça, Stéphane.
Je ne suis jamais ça. Au contraire, j'enlève la couverture, Mathieu. Je me sacrifie toujours. Non, ce sont nos personnages du jour qui sont des goujats. Parce que cet après-midi, on réunit trois dames dont les amoureux ont tiré toute la couverture à eux, et pas qu'au lit. Après Marianne Lavoisier restée dans l'ombre de son mari, le père de la chimie moderne Antoine Lavoisier, qu'elle a grandement assisté, je vous raconte Gerda Taro, une photojournaliste qui a associé son destin, et ses clichés aussi, à Robert Capa, quitte à voir son nom gommé au profit du sien, vous verrez. Quant à vous, Mathieu, vous nous raconterez une histoire inouïe, où le faux peintre cachait un vrai génie.
Oui, longtemps, le marché de l'art a encensé les tableaux de Walter Kinn, je ne sais pas si vous voyez ces enfants un peu tristes avec des yeux immenses, sans savoir qu'il s'agissait en fait des œuvres de Madame Kinn, Margaret. C'est très shocking, mais c'est très rigolo comme histoire. Avec nous également, durant cette deuxième heure, nos formidables chroniqueurs qui risquent, eux aussi, de vous choquer, Stéphane. Imaginez Lully, votre compositeur préféré, mais au ukulélé. Stop, on arrête car on n'a pas de sac à vomi en studio. Mais David, vous nous parlez aujourd'hui du ukulélé, cet instrument étonnant de Bobo.
Exactement, qui n'a pas toujours été un instrument de Bobo, mais qui est devenu. Je vous raconterai toute l'histoire.
C'était un instrument pour jouer de guitariste de petite taille à la base. Il y a de ça, je ne sais pas.
Mini guitariste. Non, il y a des origines assez intéressantes.
Surtout, il nous prépare un petit concert.
Et alors, est-ce qu'il progresse hors antenne? Vous l'écoutez? Vous êtes à côté de lui, vous êtes son voisin de bureau, Olivier Pouls.
Il se cache derrière le fait que ce ukulélé serait soi-disant inaccordable.
Et pas de gamme.
Et puis avec vous, Olivier Pouls, c'est bien, on va remonter aux origines vraiment d'une sauce,
d'un condiment romain,
de la Rome antique.
Il s'appelle le garum, et donc il existe aujourd'hui des versions contemporaines, modernes, qu'on continue à manger. Et vous verrez, c'est une recette quand même un peu surprenante, mais c'est une recette qui a permis de comprendre beaucoup de choses en matière de cuisine.
Puis, ce que vous allez découvrir à la fin de cette émission, c'est la défaite. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'annonce, je vais prendre ma revanche. Dans la lutte finale, où je perds, je pense que c'est peut-être la 18e fois consécutive, et il serait temps que je me redresse un petit peu dans l'objectif de la fin de saison.
Vous ne vous rappelez plus très bien ce que le goût de la victoire.
Non, personnellement, je l'ai complètement perdu. La lutte finale, ça sera en fin d'émission, et puis tout de suite, Stéphane Bern nous raconte notre deuxième personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il photographiait main dans la main, et pourtant, l'histoire n'a une fois de plus retenu que son nom à lui, Robert Capa, connu comme l'un des plus grands photographes de tous les temps. Il a partagé la vie d'une pionnière du photojournalisme, une femme qui n'hésitait pas à arpenter les champs de bataille pour témoigner des horreurs de la guerre. Stéphane Bern nous raconte, sans cliché, la grande Gerda Taro.
Ombre parmi les ombres, Gerda Taro a subi le plus cruel destin que puissent connaître les ombres, celui de ne même pas être sa propre ombre, mais celle d'un autre. Pendant plus de 60 ans, quand on cherchait son nom, on le trouvait certes cité des centaines de fois, mais toujours associé en quelques lignes, en quelques pages, à l'homme dont elle a un temps partagé la vie. L'écrivain François Maspero résume bien le sort que l'histoire a malheureusement réservé à la compagne de Robert Capa dans la biographie de la vie courte mais si intense de Gerda Taro. C'est sous le nom de Gerda Poril que notre héroïne voit le jour à Stuttgart dans l'Empire allemand le 1er août 1910 dans une famille modeste de commerçants juifs originaires de Galicie orientale. Ado, comme la plupart des jeunes de son âge, Gerda est coquette, aime danser et écouter du jazz. Mais la crise économique de 1929 pousse la famille à déménager à Leipzig. Là-bas, elle découvre un monde nouveau, un monde de gauche. Au gré de ses rencontres, de ses lectures aussi, elle s'initie au socialisme et tombe amoureuse de l'un de ses partisans, Georg Kuritzke. Dans ses bras, elle confirme son élan révolutionnaire. l'idylle est de courte durée. Hitler arrive au pouvoir en janvier 1933. La répression contre les Juifs se fait de plus en plus sévère. Goethe ressent le besoin de protester. Le 18 mars, elle est arrêtée pour avoir distribué des tracts anti-nazis. Résultat, elle passe 2 semaines en prison. À sa sortie, elle est dans la ligne de mire des nazis. Le temps presse, il faut partir. Auf Wiedersehen, l'Allemagne natale. Bonjour la France. À l'automne 1933, elle s'installe à Paris, non loin de Montparnasse, où elle trouve une chambre de bonne. Pour se nourrir, elle alterne les petits boulots, vendeuse de journaux ou dactylo. Elle a 24 ans, avec pour seule attache son ami de Leipzig, Ruth Serf. Tout lui semble possible. Un beau jour de septembre 1934, Goethe est attablée à la table du Dôme. Vous savez, c'est l'un des cafés où se réunissent les artistes de la rive gauche. Elle regarde les passants. Un béret couvre ses cheveux blonds vénitiens. Soudain, elle aperçoit un jeune homme. Ce n'est pas tant son air mystérieux qui l'interpelle, mais l'objet qu'il porte à l'épaule, un appareil photo. Il s'appelle André Friedman, c'est un juif hongrois. Lui aussi exilé à Paris, il a déjà publié pour une agence de Berlin, notamment les clichés d'une conférence de Trotsky à Copenhague. Mais ici, personne ne le connaît. Goethe va l'encourager à persévérer. Le 3 février 1936, André écrit à sa mère, surtout pour la rassurer. « Aujourd'hui, j'ai de nouveau emménagé avec Goethe. Elle m'aide énormément parce qu'elle a de bonnes relations avec les éditeurs et elle m'emmène partout avec elle. » Il la surnomme la débraillée, car elle court partout en portant les mêmes habits. Il faut dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Leurs journées se suivent et se ressemblent à un rythme effréné. Prendre des photos, écrire les légendes et courir les rédactions pour les vendre. Au printemps 36, Goethe a une idée. Et s'ils prenaient tous les deux une nouvelle identité? Des noms simples, sans histoire, sans patrie. Ce serait plus vendeur. André Friedman devient Robert Capa. Ça sème le doute sur son origine. Certains s'imaginent qu'il est américain. Quant à elle, elle se fera désormais appeler Gerda Taro. Leur baptême du feu a lieu en Espagne, à l'été 36, alors qu'ils sont envoyés par Vogel, directeur du magazine Vue. Armés de leur carte de presse, ils traversent les Pyrénées. Début août, ils découvrent un pays en guerre. Le coup d'état de Franco, le 18 juillet, a déclenché la guerre civile qui va dévaster le pays. Gerda Taro et son appareil photo vont en être parmi les principaux témoins et rapporteurs. C'est la première fois que des photographes peuvent se rapprocher au plus près des combats. Elle immortalise un nombre considérable de femmes, armes en main, qui luttent pour la démocratie. Sur l'un de ces clichés, on voit une femme en chaussures à talons, un genou à terre avec à la main un revolver. De son côté, Robert Capa réalise l'une de ses photographies emblématiques, la mort d'un soldat républicain. Ces soldats républicains, ils apprécient bien la compagnie de Gerda. Ils la surnomment « la pequeña rubia ». La petite blonde, ne vous fiez pas aux apparences. Cette jolie jeune femme n'a peur de rien. Elle fait sa première une du magazine Regard avec un reportage à la morgue de Valence, après le bombardement qui pour la première fois s'attaque à des civils. Son nom est crédité et n'est pas accolé à celui de son compagnon. D'habitude, les magazines publient des photos estampillées « Capa et Taro » ou même « Photo Capa », quand bien même elles sont l'œuvre de Gerda. Mais ces photos-là, Capa ne les aurait jamais faites. Sa compagne, elle, n'a pas hésité à rapprocher son objectif de 50 mm au plus près du visage des morts. Malheureusement, les clichés n'ont pas l'effet escompté. Gerda Taro veut susciter l'émotion pour engager à la participation dans le conflit. Mais personne n'aide suffisamment l'Espagne. Alors, elle va prendre de plus en plus de risques. En juillet 1937, à la veille de ses 27 ans, elle participe à une offensive à 25 km de Madrid. Les Républicains prennent la ville de Brunete. Il se rapproche de la capitale, qu'il compte bien libérer des franquistes. Le 16 juillet, ses photos sont publiées à Paris. Mais au même moment, la bataille tourne en faveur de Franco. Gerda prend d'énormes risques. Le paysage n'est fait que de sang, de flammes et de cendres. Sous le feu des canons, elle concède à quitter la ligne de front. Elle monte sur le marchepied d'une voiture qui transporte des blessés. Mais quelques kilomètres plus loin, un char républicain surgit d'un champ de blé. Il percute la voiture, blessant grièvement Gerda, qui décède à l'hôpital au petit matin du 26 juillet 1937, après avoir pris le temps, évidemment, de demander ce qu'il était advenu de son appareil photo. Quelques jours plus tard, son enterrement au Père Lachaise réunit des milliers de personnes. Les plus grands artistes lui rendent hommage. Le sculpteur Giacometti sculpte un oiseau qui est posé sur sa tombe. Pablo Neruda et Louis Aragon prononcent ensemble son éloge funèbre. Un an après, Robert Capa publie un ouvrage réunissant leur travail, mais il omet de préciser qui est l'auteur de chaque cliché. Résultat, le travail de sa compagne se retrouve mêlé au sien. Quand il disparaît en 1954, son frère se charge de préserver sa mémoire et de faire connaître son œuvre. Gerda Taro n'a pas eu cette chance. Toute sa famille a péri dans les camps. Son travail tombe alors dans l'oubli, jusqu'à la découverte fortuite à Mexico en 2007 d'une valise contenant 4500 négatifs. Ils sont signés Robert Capa, David Seymour et bien sûr Gerda Taro.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Gerda Taro, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane, une historienne qui la connaît bien. Bonjour Françoise de Noyel.
Bonjour.
Bonjour Françoise de Noyel, vous êtes historienne de la photographie. J'ai ouvert le récit sur les propos de l'historien François Maspero et celui-ci explique que Gerda Taro n'était même pas sa propre ombre, mais celle d'un autre. Mais finalement, quand on voit son courage, on pourrait se dire que c'est plutôt Robert Capa qui restait dans son ombre, non ?
Oui, peut-être que c'est un petit peu exagéré. C'était deux personnalités hors du commun. La période exceptionnelle leur a permis de vivre des expériences de premier plan. Elle est restée un mythe dans le monde de la photographie, un mythe entretenu pendant de nombreuses années, et le livre de Maspero a continué à entretenir cette mythologie.
Quand on écoute le récit de Stéphane, on a l'impression que Gerda Taro, elle voulait être surtout... être utile, servir une cause. Pourquoi elle a choisi d'embrasser ce métier de photographe à la base ?
C'est la vie qui en a décidé ainsi. Elle avait trouvé du travail de secrétaire dans une petite agence photo, Alliance Photo. Lui faisait un peu de photographie pour gagner sa vie. Il voulait être journaliste. Ils étaient tous les deux antifascistes. Ils sont partis couvrir la guerre d'Espagne. Lui, envoyé par Lucien Vogel, le directeur du magazine Vue. Elle, ben, elle l'accompagnait. Elle n'avait pas d'accréditation, mais elle avait tout de même une carte de presse de l'agence néerlandaise ABC. Elle l'avait obtenue parce qu'elle travaillait elle-même dans une agence et que cette agence participait à ABC.
Vous avez fait votre thèse sur la photographie de l'entre-deux-guerres à Paris et vous y expliquez que la discipline connaît un développement considérable à cette période. En tant qu'historienne de la photographie, que pouvez-vous nous dire de cette émergence ? C'est l'époque des photos à grand tirage pour la presse ?
C'est probablement la plus belle période pour la presse illustrée. Tous les genres de magazines sont publiés en grand nombre et tous prennent conscience de l'intérêt de la photographie pour vendre. Vendre, la photographie fait vendre. Des magazines comme l'Illustration, Vue, Regard, Voici, Voilà. Et tous publient des centaines de photographies chaque semaine, alors que la presse quotidienne, elle, reste frileuse, car il faut acheminer les photographies, et cela prend du temps. Et c'est bien plus compliqué que pour la presse magazine qui, elle, a une semaine pour s'organiser.
On peut le dire, personne n'était allé aussi près des combats qu'eux. Est-ce que Gerda Taro et Robert Capa dessinent les prémices du métier de reporter de guerre ? On l'appellera plus tard reporter de guerre.
Oui, vous avez absolument raison, et pour deux raisons. La photographie devient véritablement un outil de propagande. Les photographes et leurs images sont mis en avant. Des nouveaux appareils, le prestigieux Leica et les Flex, permettent de prendre des instantanés, de s'approcher au plus près du sujet. Et Taro comme Capa vont s'approcher au plus près du sujet.
Si on vous suit, Gerda Taro, c'est clairement la première femme photographe de guerre de l'histoire.
À ma connaissance, faut toujours se méfier des premiers, mais à ma connaissance, c'est la première.
C'est la première fois aussi que le public découvre la guerre d'aussi près visuellement. Quel impact ont eu sur les gens ces clichés ?
Un fort impact, c'est évident, mais pas suffisant. La non-intervention décidée par l'Angleterre et la France pendant que les Italiens et surtout l'Allemagne et ses avions de la Légion Condor apportaient une aide massive fut déterminante. Comme aujourd'hui, les photographes sont essentiels pour que les guerres existent à la face du monde. Les guerres sans images sont des guerres oubliées.
Stéphane a expliqué dans le récit que Robert Capa ne signe pas chaque photo de son livre, le livre qu'il publie un an après la mort de Gerda Taro. Et vous écrivez dans un autre article que Robert Capa était habitué à considérer comme sienne les images de Gerda. Il a vraiment voulu tirer la couverture vers lui en entretenant ce flou sur la provenance des clichés.
Oui, c'est un peu compliqué. L'ouvrage « Death in the Making » publié en 1938 est un résumé de toutes les ambiguïtés. Il est présenté comme l'ouvrage de Capa, « Death in the Making by Capa ». en même temps est indiqué photo de Kappa et Tarot, alors que figurent des photos de Shin, de Caro et de, oui, de Gerda Tarot et de Kappa. Vous voyez donc qu'il a un peu tiré la couverture à lui.
Enfin, elle a souffert aussi ou pâti du fait qu'à l'époque, l'identité du photographe n'était pas très importante. Ce qui compte, c'est le témoignage surtout, c'est la photo, pas tellement celui qui l'a prise.
Et les photographes, quand même, depuis longtemps, hein, on peut dire quasiment depuis le 19e siècle, voudraient que leur nom apparaisse. Mais ce sont les directeurs artistiques qui, eux, ne veulent pas. Et au bout du compte, la valise mexicaine a montré que des photos de l'un avaient été attribuées à l'autre.
Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut distinguer facilement, ou au contraire c'est très dur, une photo prise par Gerda Tarot et une prise par Robert Kappa?
C'est un peu difficile parce que ce qu'il faut, c'est regarder la date et le lieu. Parce que tous les deux n'ont pas été en même temps en Espagne. Donc, c'est plutôt cela qui permet d'identifier. Mais ils avaient à la fois un relais et un Leica, et ils échangeaient leurs appareils.
Oui, donc ils avaient donc, même matériel, on peut
c'est
pas...
C'est très difficile,
et il y a eu des erreurs.
Vous-même, vous avez été commissaire d'une exposition sur Robert Kappa à la BNF, à l'occasion des 50 ans de sa disparition en 2004. Pourrait-on imaginer un projet d'exposition sur Gerda Tarot, surtout avec cette valise mexicaine retrouvée en 2007?
La valise mexicaine, c'est un autre mythe. Hein, elle était perdue en 36, retrouvée, comme vous l'avez dit, en 2007. Elle redistribua les cartes. On y trouve 4500 photographies de la guerre d'Espagne de 36 à 39, qui sont de Kappa, Shim et Tarot. Certaines photos, comme je vous l'ai dit, ont été attribuées à Kappa, alors qu'elles sont en fait de Tarot. Une exposition et une projection des photographies de Gerda Tarot a eu lieu aux Rencontres d'Arles en 2011. La valise mexicaine a été, et ses trois photographes, a fait l'objet d'une autre exposition hommage à Paris en 2013. Actuellement, Gerda Tarot figure dans la très remarquable exposition « Femmes photographes de guerre » au Musée de la Libération à Paris. Vous pourrez voir donc les photographies de Gerda jusqu'au 31 décembre, aux côtés de celles de Lee Miller, Catherine Leroy, Christine Spengler, Françoise de Mulder, Suzanne Meselas, Carole Cole et Anja Nedringos.
Merci beaucoup Françoise de Noyelle d'être venue avec nous sur cette héroïne qui avait pour arme son appareil photo. Vous allez publier cet automne, je crois, depuis l'objectif, un ouvrage sur les portraits du photographe Jean Mounique aux éditions de Juillet. Vous terminez également un ouvrage sur l'histoire des agences photo françaises du XXe siècle.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci à vous.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque des dames dont l'amoureux a pris toute la couverture et pas qu'au lit. Après Marianne Lavoisier et Gerda Tarot, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, j'ose le dire, d'un beau salaud.
Vous avez raison d'oser, Stéphane, car si le terme de salaud doit s'appliquer à quelqu'un, c'est bien au mari de mon personnage du jour, Margaret Keane, peintre majeur de la deuxième moitié du XXe siècle, mais en secret, puisque durant l'essentiel de sa vie, c'est son mari, le sympathique Walter, qui s'est approprié ses œuvres. Alors on est d'accord, on ment tous, hein, David, quand il dit à une fille rencontrée sur Tinder qu'il n'a aucun problème psychologique. Moi, quand je prétends m'y connaître en histoire, simplement pour le kiff de bosser avec Stéphane Bern. Ou encore Stéphane lui-même, quand il dit à ses domestiques venus lui réclamer une augmentation qu'il ne peut rien faire pour eux.
La maison n'a plus d'argent.
Mais il y a un domaine dans lequel, a priori, il est difficile de mentir, c'est l'art pictural. Soit on sait peindre, soit on sait pas peindre. Ne sachant pas, Walter Keane a décidé de faire croire qu'il savait, en clamant haut et fort, que c'est lui qui avait peint ses intrigants portraits d'enfants aux grands yeux qui allaient connaître un succès retentissant, alors qu'en fait c'était sa femme, notre malheureuse Margaret.
L'ordure.
C'est exactement comme ça que nous l'appellerons désormais dans cette chronique, Stéphane. L'artiste, la vraie, naît sous le nom de Peggy Doris Hawkins en 1927 à Nashville, Tennessee, parmi les fermiers ruinés de la Grande Dépression. Elle s'ennuie ferme. Or, Stéphane, comment on trompe l'ennui lorsqu'on vit à Nashville, Tennessee?
La prochaine. prostitution, bien oui. sûr, la drogue, évidemment,
oui. non,
mais
non,
pas seulement.
Non, le dessin, elle a 10 ans, Stéphane. Hein. Peggy passe ses journées à dessiner, et pas comme mon fils, des chevaliers à dos de licorne qui zigouillent des dinosaures, des trucs qui ne rapporteront jamais rien chez Sotheby's. Non, Peggy, elle, a suffisamment de jugeote pour dessiner des trucs potentiellement très rémunérateurs, même si, évidemment, elle est loin de s'en douter. Sa spécialité, alors qu'elle en est une encore, peindre des enfants. Mais pas des enfants rieurs qui jouent avec des cerfs-volants, des enfants flippants. Leurs yeux sont noirs, exorbités, anormalement grands, avec un petit air de bichon battu. La plupart ont des larmes qui dégoulinent le long de leurs joues blafardes. Certains se blottissent contre des chats, d'autres pires s'agrippent à un masque de clown.
Super !
Oui, on sent une sacrée joie de vivre qui émane de cette gosse. Et malheureusement, malgré des débuts prometteurs, puisqu'elle réussit à intégrer la prestigieuse Trapagan School de design de New York, Margaret joue de malchance. Après un mariage expéditif, elle quitte le foyer avec sa fille dans une main, ses pinceaux dans l'autre. Mère célibataire à Manhattan, c'est galère. Alors, pour financer ses bloody chefs, elle devient dessinatrice de rue. Mais là où elle commet une erreur, c'est qu'au lieu de dessiner ce que veut le passant, à savoir de jolies perspectives de Central Park ou la Statue de la Liberté avec un petit chat devant, elle s'obstine à peindre ses gamins bizarres aux yeux globuleux. Peggy a beau changer de nom en Margaret, ça ne marche pas. Un jour qu'elle tente sa chance dans une foire à San Francisco, elle tombe sur le fameux Walter. Walter Keane, un ex-agent immobilier qui dit s'être reconverti à la peinture. Déjà, ça sent bon. S'attribuant la réalisation de nombreuses vues de Montmartre. On ne sait pas non plus s'il les a réalisées. Certainement pas d'ailleurs. Ce qui est d'autant plus intrigant que le dit Walter n'a jamais mis les pieds à Paris. Alors, Walter étant assez agréable à regarder, Margaret ne se méfie pas. Pire, elle tombe amoureuse. Il se marie à Honolulu, elle prend logiquement son nom et commence donc à signer toutes ses toiles sous le nom de Keane. Serviable et malin, c'est le propre des authentiques salauds, Walter embarque un soir les créations de Margaret, signées donc Keane, dans un club de San Francisco. Car oui, Stéphane, dans les années 50, à San Francisco, il n'est visiblement pas saugrenu d'arriver en boîte de nuit avec des tableaux pour essayer de les refourguer entre deux twists.
Ne me dites pas qu'ils ont fait ça.
Et si, l'alcool aidant et son bagou aussi, Walter réussit ce soir-là à refourguer plusieurs toiles. Ravi, il va recommencer son petit manège quelques jours plus tard. Un jour, Margaret, qui commence à se demander où sont passés ses tableaux, l'interroge. Walter avoue, depuis des mois, il vend ses tableaux en ville, mais en faisant croire qu'ils sont de lui. L'essentiel, c'est de faire de l'argent, bébé, explique-t-il à Margaret, ajoutant, filou, que c'est de toute façon trop tard. Révéler le poteau rose les exposerait à des poursuites judiciaires pour fraude. Tu n'as pas envie d'aller en prison, Maggie? Alors calmos. Tétanisé par l'enjeu, effrayé par la perspective de la prison et aussi, il faut le dire, terrorisé par un mari, Walter, qui, non content d'être un mythomane sans cœur, est aussi un solide alcoolo qui n'hésite pas à lui flanquer des roustes, Margaret accepte de jouer le jeu. Un jeu de plus en plus dangereux, car durant les années 60, la série des enfants aux grands yeux voit sa cote s'envoler dans des proportions que n'auraient jamais pu imaginer les Keane. Exposition, produits dérivés, posters, cartes postales, magnets sur le frigo, t-shirts vendus jusque dans les stations essence. Les enfants aux grands yeux sont partout, l'argent coule à flot. Le couple s'offre une villa de luxe avec piscine. Les Beach Boys en personne passent régulièrement y boire l'apéro lors de pool parties incroyables que Walter organise. À aucun moment, ce salopio de Walter ne se remet en cause, pas comme ses fans, qui tout de même m'a avoué l'autre jour qu'il était mal à l'aise à l'idée d'avoir confisqué les passeports de Pepito et Consuelo, les hommes de ménage portoricains qu'il a.
J'ai merdé, oh là là.
Oui, Walter, lui, n'a aucun remords, même pas vis-à-vis de sa femme, qui, minée par la honte et consumée par la peur qu'on découvre un jour la supercherie, s'enferme dans la solitude et le silence de leurs 400 mètres carrés. La demande explosant, chaque toile valant désormais des centaines de milliers de dollars. Ce salaud de Walter l'oblige à peindre encore plus, 16 heures par jour, enfermé à double tour dans un atelier où personne n'est autorisé à entrer, même pas sa fille. Elle a interdiction d'avoir le moindre ami, évidemment, salaud jusqu'au bout. Walter la trompe à tout va et la menace accessoirement de mort, et un jour même tabasse son chien, pour une raison qui n'a jamais été élucidée. Pendant ce temps, aux yeux du monde, Walter fanfaronne. Il accorde de longues interviews au magazine d'art, interviews dans lesquelles il n'hésite pas à se comparer à Gréco, explique qu'il s'est inspiré des enfants hagards qu'il a croisé dans les rues de Berlin, saccagé par la Seconde Guerre mondiale, sachant évidemment qu'il n'a jamais été en Allemagne. Un jour, enfin, au milieu des années 70, Margaret réussit à s'échapper de l'atelier. Elle demande le divorce, part vivre à Hawaï. Elle y retrouve l'amour auprès d'un écrivain et devient témoin de Jéhovah. Oui, d'une tutelle à l'autre, vous me direz, elle le cherche un peu aussi. Mais elle trouve en tout cas le courage de révéler au monde l'incroyable supercherie. Les enfants aux grands yeux, c'est elle, pas l'autre andouille de Walter. Au début, dans le petit milieu de l'art contemporain, c'est la confusion, après tout, c'est sa parole contre la sienne. Un défi est alors mis en place pour trancher la question. Walter et elle doivent tous les deux peindre les enfants aux grands yeux en public, devant un parterre de journalistes en plein milieu de l'Union Square à San Francisco. Sauf que, oh surprise, Walter se dégonfle. Margaret l'attaque en justice et lors du procès, devant le juge et les jurés, même défi. Elle peint dans la salle d'audience une toile d'enfant en 53 minutes. C'est au tour de Walter quand soudain, non, il peut pas, la poisse, il est pris d'une étrange douleur à l'épaule qui l'empêche de peindre. Oh, pichette! Sans surprise, Margaret gagne son procès, mais salaud jusqu'à son dernier souffle. Walter maintiendra être l'auteur des Enfants aux grands yeux jusqu'à sa mort en 2000. Aujourd'hui, Margaret est encore vivante, elle a 94 ans. Tim Burton a tiré un film de son histoire en 2014, Big Eyes. Elle peint toujours des enfants, mais néanmoins un peu plus joyeux. Et certaines de ses œuvres figurent sur son compte Instagram. Je suis allé voir, effectivement, sur une de ses toiles, un enfant se fait lécher le visage par un singe, un autre déprime face à un perroquet. C'est beaucoup, beaucoup plus joyeux, il y a de la progression. Morale de l'histoire, en tout cas, c'est mal de mentir. Et il n'est jamais trop tard pour avouer un mensonge. Stéphane nous l'a encore prouvé l'autre jour, alors qu'il voulait démentir le cliché que je véhicule trop souvent dans cette émission, selon lequel il serait très riche. Mais bon, tout le monde n'a pas comme vous un gardien à demeure, Stéphane.
Mais non. Si j'en ai un.
C'est quand même un ange gardien qui néanmoins fait le ménage. Non. Ça c'est quand même beaucoup mieux, effectivement, Stéphane.
Merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour dont l'amoureux a pris toute la couverture et pas coulis.
Pour retrouver deux garçons dont on ne sait pas lequel tire sur la couverture la nuit, ils sont si discrets. Olivier Pouls, vous nous racontez l'histoire d'un condiment disparu, et pour une bonne raison.
Le garum.
Ouais,
mais bien utile quand même, il a été bien utile dans l'histoire de la cuisine.
Il a permis des découvertes, vous nous direz pourquoi. Mais d'abord, c'est plus qu'une chronique, ça va être un son et lumière, un spectacle exceptionnel. C'est forcément le ukulélé. Vous avez tous essayé de jouer un jour de ce petit instrument, cette guitare miniature. Mais d'où ça vient, David Castello-Lopez?
Oui, le ukulélé, ça fait partie des instruments dont le niveau de cool a connu des hauts vertigineux et des bas complètement abyssaux. Une sorte de montagne russe du cool. Ça a d'abord été un des instruments les plus cool du monde avant de devenir l'un des instruments les plus ringards du monde, puis de redevenir l'un des instruments les plus cool du monde dans un comeback incroyable entamé il y a un peu moins de 15 ans. Alors j'en ai apporté un ici, un ukulélé.
De belles factures.
Voilà. C'est vrai que, comme on le voit, on se dit que c'est peut-être l'instrument qui fait le moins peur du monde. Vous voyez, c'est après le triangle peut-être. C'est quatre pauvres cordes en plastique, un corps tout menu, on dirait un jouet. Et la vérité, c'est que c'est un petit peu un jouet, en tout cas si on le compare à d'autres instruments dont la palette est plus complète, hein, comme la guitare, le piano et même le saxophone. Je pense que c'est un instrument supérieur.
Ah oui, ça je vous le confirme. Ouais. Volontiers.
Quelle évidence. Le ukulélé, c'est une copie presque conforme d'une petite guitare inventée par le plus grand peuple du monde, les Portugais.
Ah, voilà.
En portugais, cette petite guitare s'appelle la breguinha. Et la breguinha, c'était en particulier un instrument traditionnel de l'île de Madère, connu pour ses vins et pour Cristiano Ronaldo. En 1879, il y a un immigré portugais qui s'appelait João Fernandes, qui est parti de Madère et qui est arrivé à Hawaï avec sa breguinha. Et visiblement, c'était un virtuose de la breguinha, au point que les populations locales d'Hawaï ont été complètement fascinées par son jeu. Et ils ont rebaptisé son instrument ukulélé, qui veut dire en langue locale « puce qui saute ». Parce qu'il y a une espèce d'ambiance un peu sautillante dans la façon dont João Fernandes jouait de son, de sa breguinha.
C'est magnifique cet accent.
Le roi de Hawaï, à ce moment-là, qui s'appelait Kalakaua, il a appris à en jouer. Et une vingtaine d'années plus tard, au début du XXe siècle, le ukulélé était partout dans l'archipel d'Hawaï. Or, ce début du XXe siècle, c'est aussi le moment où les Américains ont annexé Hawaï et sont devenus dans la foulée un petit peu fan, du folklore local hawaïen, folklore qu'ils se sont approprié, comme ils savent faire. Et l'une des choses qui se sont appropriées, eh bien, c'est le ukulélé. Dès les années 20, on trouvait plein de ukulélés pas chers en vente aux États-Unis. Tout le monde s'y est mis. Et en gros, ça a duré une quarantaine d'années de succès. Elvis Presley a fait des tubes au ukulélé, par exemple. Et puis, brusquement, dans les années 60, le ukulélé a été ringardisé.
Non.
Ringardisé immédiatement, au point qu'un journaliste américain de The Atlantic a appelé ça le ukepocalypse.
Oh
voilà,
non.
L'apocalypse du ukulélé. Alors, ringardisé par quoi? Eh bien, ringardisé par la guitare électrique qui est devenue l'instrument cool par excellence, énergique et puissant, celui des rockers, celui des Beatles. Et c'est vrai que comparé à une Les Paul, un ukulélé même joli, ça fait pas le poids. Donc, traversée du désert ukulélesque. Le ukulélé, je me souviens très bien que pendant une grande partie de ma jeunesse, c'était encore un truc de niche chelou, un peu comme la mandoline ou le luth. Et puis, comme je l'ai dit souvent, j'ai vécu un moment aux États-Unis à côté de San Francisco et j'avais pour coloc le premier hipster que j'ai connu de ma vie. Et la copine de ce hipster, qui s'appelait Annie, elle était hipster aussi, tendance un petit peu hippie, et c'était une joueuse de ukulélé. Et je n'ai découvert que plus tard qu'en réalité, elle n'était pas en retard, mais en avance. C'était une pionnière du revival ukulélesque qui a saisi d'abord, revival qui a saisi d'abord le monde du hipsterisme, puis le monde entier. Ce revival, il a été aidé de façon très explosive par YouTube, où il y a eu des vidéos super virales, des tutoriels pour le monde. On se souvient de la fameuse reprise de Over the Rainbow par un monsieur hawaïen, très gros, qui est décédé depuis, qui était décédé même avant son succès sur YouTube. Il est décédé en 1997. Oui. Le succès, il date, oui, du milieu des années 2000. Et voilà. 1,2 milliard de vues sur YouTube, quand même.
C'est plus que je possède d'études.
C'est sensiblement plus que je possède d'études. Alors, pourquoi cette ressucée du ukulélé?
Julien Doré aussi.
Sans doute, alors ça pour la France. Mais je pense que ça fait partie d'un petit mouvement de retour à l'authenticité, vous voyez, à des sons plus naturels et moins travaillés. Tout ça parallèlement, bien sûr, à une plastification du son avec l'autotune et compagnie. Mais il y a cet autre mouvement qui va à côté. Et puis, il faut quand même dire que le ukulélé, c'est plus facile que la guitare. Mmh. Hein. On peut apprendre quelques accords très vite. Mmh. Les cordes ne font pas mal aux doigts. Moi, j'en avais pratiquement...
C'est moins lourd aussi.
C'est beaucoup moins lourd, beaucoup plus transportable. J'avais pratiquement jamais joué de ma vie, à part quelques minutes avec la copine de mon coloc en 2008, mais du coup j'ai acheté, comme je l'ai montré là, un ukulélé pour cette chronique. Mais le problème, c'est qu'il était un peu trop bon marché. Je pense qu'il a coûté 12 euros, vous voyez.
Ah, 12 euros,
et
oui, c'est bon marché.
Il est un peu défectueux dans le sens où il est inaccordable. Vous voyez, quand je fais un accord comme ça, ça sonne un peu faux. Vous voyez, c'est pas terrible.
Vous avez quand même joué quelque chose.
Moi, je peux jouer Joyeux anniversaire.
D'accord.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Vous chantez plus que vous ne jouez.
Joyeux anniversaire Olivier Pouls, parce que son anniversaire était le plus loin, c'était au mois de mars. Joyeux anniversaire.
J'ai raté mon dernier acte.
Magnifique, mais surtout que cette notion d'anniversaire pour un anniversaire qui était en mars.
Exactement.
Tout était désaccordé, quoi.
J'ai juste pris la chanson la plus facile à faire et à apprendre rapidement.
Vous sortez un album,
sans doute pas avec un ukulélé.
Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre, c'est aussi l'histoire des recettes et des produits, même des produits qui ont disparu, mais qui ont apporté beaucoup à l'histoire de la gastronomie. C'est le cas du garum, Olivier Pouls.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour accompagner vos plats, vous avez de la mayonnaise ou du ketchup. Évidemment, à l'époque romaine, la moutarde. Mais les Romains, eux, ils avaient le garum. Alors, le garum, qu'est-ce que c'est? C'est un condiment à base de poisson fermenté, très puissant.
Gnocchman, quoi.
Et c'est un peu ça, c'est ce qu'a donné ensuite.
Mais c'est bon.
Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est bon parce que c'est assez maîtrisé, mais je pense qu'à l'époque, ça n'était pas forcément.
Aïe.
Alors, le garum est probablement né à Babylone, bien avant que les Romains ne l'utilisent, puisqu'on a retrouvé des tablettes qui mentionnaient déjà la recette, 1700 ans avant Jésus-Christ. Exactement. Ça a peut-être inspiré la chanson, d'ailleurs. Alors, il était connu sous le nom de sicou. Les Grecs, dès le 6e siècle, le préparaient aussi. Ils appelaient ça le garos. Garos qui veut dire petit poisson. Et donc, le garum en latin, en italien, ensuite, il se trouvait d'abord sous deux formes. Sous une forme de pâte, une forme solide, ou sous une forme liquide. La recette liquide était mise en place un tout petit peu plus tard, vers le 1er siècle. Alors, il faut quoi pour faire du garum ? Des poissons entiers, des petits poissons, type maquereau, type anchois, qui sont mis à fermenter au soleil avec du sel, des épices, dans des espèces de grandes cuves qui sont battues au vent, au soleil, etc. Et qu'on couvre à peine, de manière à ce que la fermentation, notamment à la chaleur, puisse s'opérer. Alors la chair des poissons se ramollit, elle se liquéfie sous l'effet de la macération et l'action du sel. Il y a une réaction chimique. Et en fait, le poisson saute digère avec son intestin, en quelque sorte, parce que l'intestin
apporte
ça donne envie, ouais.
Et donc, il faut arrêter le processus juste avant d'arriver à la putréfaction. donc, il ne faut pas s'arrêter. Et je ne sais pas si vous imaginez l'odeur qui pouvait y avoir, puisque notamment, on a retrouvé à Pompéi des espèces de structures, des grands bacs qui servaient à l'élaboration de ce garum, qui était disposé dans la ville. Donc, vous imaginez quand vous passiez à côté
l'odeur des
poissons en putréfaction. Alors donc, après, on utilisait le liquide ou la pâte de ces poissons et qui servait donc de condiment pour beaucoup de choses durant cette cuisine romaine. Et ensuite, il y a plein de déclinaisons qui arrivent. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a la sauce Nhoc Nam au Vietnam, qui est un dérivé de ce garum. Vous avez, c'est la lactofermentation qui a permis ensuite non seulement de conserver un certain nombre d'aliments, mais cette lactofermentation, c'est ce qui permet aussi de faire de la... on le fait avec du soja, on le fait avec du blé, on le fait avec avec plein d'autres choses. Vous avez le praok cambodgien ou le mam vietnamien, mais aussi chez nous, le pisala. Vous connaissez pas la pisala ou les mêlées?
La pisaladière, je connais, mais pas alors, le pisala.
Le pisala et les mêlées provençaux, qui sont des versions modernes du garum. C'est des petits alevins de poisson qu'on a mis à fermenter. Alors, c'est des fermentations qui sont un peu plus courtes et maîtrisées. Et franchement, c'est très très bon. Hein. Ça a un goût assez puissant, mais c'est absolument délicieux. Alors, des scientifiques se sont amusés à reproduire aujourd'hui la recette du garum telle qu'elle était réalisée au temps des Romains. Alors, ils ont pu trouver la recette grâce à des résidus qui avaient été retrouvés notamment à Pompéi. Ils ont regardé avec des microscopes à balayage électronique, ça. Et donc, ils ont listé les ingrédients. Et alors, donc, il y avait des anchois, de la menthe, de la sauge, du thym, de l'origan et beaucoup de sel. Et si vous voulez vous amuser à faire ça, donc vous prenez des anchois, beaucoup de sel, vous rajoutez ça, vous tassez bien dans un bocal et vous attendez quelques semaines, voire quelques mois. Mais et ensuite, vous m'invitez.
Mais oui, voilà, c'est ça.
Ça se maîtrise.
Intoxication alimentaire. C'est quoi la date? C'est-à-dire, il faut combien de temps? Comment on sait au moment ça va
quand ça se mange?
Et ça, c'est une bonne question à laquelle j'ai pas la réponse. Et c'est pour ça que je laisserai faire des professionnels. Ce qui est certain, c'est qu'une fois que ça a été maîtrisé, que la lactofermentation est entrée en action, après, votre garum, vous pouvez le garder autant de temps que vous voulez. Il n'y a plus aucun danger.
Mais il n'y a pas le risque de putréfaction?
Normalement, le sel l'évite.
D'accord.
Et donc, le processus de lactofermentation, si des chimistes nous écoutent, ils peuvent peut-être nous envoyer un petit complément pour nous expliquer ce processus qui va faire que votre chair de poisson va ensuite être consommable pendant très longtemps.
C'est un risque à prendre, c'est ce que nous dit Olivier Poul. Si vous décédez, ma foi, écrivez-nous à Europe 1, rue des Cévennes. Merci Olivier Pouls pour cette magnifique recette. On retrouve toutes vos recettes d'ailleurs sur le site europe1.fr.
C'est très salé le garum, un peu comme mes questions. On joue avec l'histoire, c'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
David, je commence avec vous. En 2005, date au Canada de la légalisation du mariage gay, une association qui voulait protester contre ce déclin moral a déposé auprès de la police le parcours de leur manifestation. Le problème, c'est que le tracé du parcours avait la forme d'un pénis. Vrai ou faux?
Je dirais qu'il y a des tracés qui ont la forme d'un pénis. Mais je pense pas. Ça devait être sérieux comme chose, donc j'irais non.
Bonne réaction. Par contre, des étudiants ont manifesté en 2012 contre l'augmentation des droits de scolarité universitaire et les forces de l'ordre ont constaté que le parcours ressemblait à un doigt d'honneur. Bon. Mathieu Noël,
oui.
vous aimez Tintin?
Je suis tintinophile, oui, je l'ai été en tout cas.
Le prénom du capitaine Haddock, c'est Archibald. Vrai ou faux?
Ben oui, il me semble que c'est ça. Enfin, je sais pas pourquoi j'aurais pensé à ça. C'est que c'est un autre personnage de Tintin, Archibald. Archibald, c'est peut-être Professeur Tournesol. Ah, je sais pas. Non, ma première intuition, c'était de dire que c'était le capitaine Haddock.
Ben oui.
Absolument.
Oui, mais je suis pas belge, moi.
Mais en fait, il est très peu cité.
Oui, très rarement. Oui. Mais je sais pas, ça m'a dit.
Et est-ce que vous connaissez le prénom de Professeur Tournesol?
Trifon.
Exactement.
Trifon Tournesol, oui, pourquoi j'ai
Trifon. Eh oui.
Et oui, mais j'ai relu récemment avec mon fils. Il a tous relu.
Olivier, Evangelos Odysseas Papathanasiou est le vrai nom original d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. C'est vrai ou c'est faux?
Vous dites-le moi pour le plaisir
Evangelos
de vous entendre.
Evangelos Odysseas Papathanasiou.
Donc c'est le...
vrai nom original d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère.
Odysseas, il y a dedans... C'est... Non, je crois que c'est pas vrai. Ça me plaît pas.
Bonne réponse. Où, pas Syrtakis, est-ce que c'était son vrai nom?
En revanche, c'était le vrai nom du compositeur Vangelis.
Ah oui.
Qui nous a quittés le 17 mai dernier. Chariot de feu. Alors, Vous avez tous les trois donné une bonne réponse, il faut donc vous départager. L'étape du Tour de France, qui fut la plus longue en kilomètres, a été parcourue en 21 heures. Ça s'est passé en 1919. C'est un Belge, on l'a déjà vu, qui l'a remporté. Combien de kilomètres ont été parcourus ?
484 kilomètres.
484.
Moi, je suis à 385.
580.
C'est vous qui gagnez, Mathieu.
Ah, le cyclisme, quand même.
Ah, ouais, 468.
À l'époque, les étapes étaient encore plus longues qu'aujourd'hui, ce qui paraît fou.
C'est 468.
Vu les conditions de la chaussée. Ouais. J'étais pas loin, 468. Ouais. Ah, enfin, je remporte.
Oui, alors que.
La lutte finale.
Ça a été.
Combien de...
J'avais dit 580, moi.
Ah oui.
Oui, oui. Non, plus mais non, 580, c'est trop, c'est inhumain. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis. Il était consacré à ces amoureux qui ont tiré la couverture à eux et pas colis. Mais. C'est ça qui nous intéresse, nous, Stéphane, c'est... Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant, c'est vous qui tirez la couette la nuit ou bien c'est votre teckel à poil dur ?
Non, il n'y a pas de couette.
Vous ne dormez pas avec vos chiens, c'est peut-être pas partie de ces gens qui adorent les chiens au point que les chiens viennent s'installer dans le lit parfois.
Je ne parle pas de ces questions tout
à
fait personnelles.
Donc oui, donc le chien vient dans le lit, il a l'autorisation. Oui, d'accord, très bien. Très bien, c'est noté,
Stéphane. Je vous demande avec qui vous dormez.
Oui, vous. Bah, moi, je vous le dis, mon chat, parfois, saute dans le lit et je le laisse dans le lit.
Bah, le chien, des fois, il ne va pas dans le jardin, puis ensuite, sur le, dans le lit,
c'est ça
pas,
qui est gênant. Oui, mais c'est tellement propre qu'ils ont gardé le jardin, oui. Il peut passer du lit au jardin sans problème.
Bah, vous savez, ça nettoie les pattes d'un chien.
Ah, donc à chaque fois qu'il rentre, il faut lui frotter un peu.
Oui, il se fait
il a quelqu'un qui s'en occupe. C'est le gardien de la maison.
Oh, je m'occupe moi-même de mes chiens. Je sais pas.
C'est tout à votre honneur, Stéphane. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain. Et vous connaissez le programme, je crois qu'il est, comment vous dites ?
Oui.
Demain, c'est ça, Stéphane.
N'exagérons rien. Mais c'est vrai pour une fois. Demain, on réunit trois personnages qui vivent pour le plaisir.
Oh oui, Herbert Léonard, bien sûr.
Pour le plaisir, pour le temps, le temps.
Oui, vous emballez pas Stéphane, c'est juste un teaser.
Ah bon?
On va pas écouter la chanson en entier.
Si vous voulez, bon d'accord. Mais avant lui, on réunit Épicure, le philosophe, pour qui le plaisir est l'ami du bien. Puis l'écrivaine qui a lié plaisir et désir et l'a raconté dans ses récits, Anaïs Nin.
Eh bien, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, Stéphane.
Oui, plaisir partagé. Alors à demain, Mathieu. À demain, les amis.
À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.